pouvez saluer la personne à votre droite ou à votre gauche. Bienvenue à l'EPI. Et une fois que vous avez salué la personne à côté de vous, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Est-ce qu'on pourrait élever une louange pour notre Dieu? Est-ce qu'on pourrait commencer en prière? Jésus, nous te bénissons ce matin. Jésus, nous t'accueillons et nous te faisons roi. Nous savons, Seigneur, que tu as des choses en réserve pour nous, mais la première chose à faire, c'est de venir te louer et t'adorer. Nous venons devant toi avec un cœur imparfait, mais rempli de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous permet d'être debout ce matin. Élevons nos voix. Commençons à lever Jésus ce matin.
Alléluia.
Tu veux nous bénir ce matin. Tu veux nous remplir de toi. Tu as d'abondantes bénédictions devant ta face. Alors on vient te louer et t'adorer ensemble. Alléluia Jésus. Sois béni Seigneur. Dieu veut faire avec nous ce matin. Et on va chanter ensemble.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Voici ce que Dieu veut faire. On va le répéter ensemble. Dieu te bénit.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
Et son église chante, amen.
Amen.
Ça veut dire ainsi soit-il.
Amen. Amen.
acclamer ensemble. Que sa faveur reste sur toi. On y va.
Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et ses enfants et les enfants de leurs enfants.
Que
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de
que sa présence.
Enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle le tienne et t'en souvre. Il est pour toi. Il est pour
ce n'est plus moi qui vis. sainte justice et semblable devant son trône.
Alléluia Jésus, tu es notre rocher Seigneur ce matin. Tu es notre rocher, nous nous appuyons sur toi Seigneur Jésus.
Nous élevons nos voix pour dire que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu es sur ton trône, tu règnes, tu es souverain. Tu es le maître du ciel et de la terre. Tu tiens toutes choses entre tes mains. Non, rien ne t'échappe. Et dans l'orage et dans la tempête, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nos vies sont entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Nos cœurs, tout ce que nous sommes, nous te le donnons. À toi notre louange, notre reconnaissance, notre investissement, tout est pour toi, Seigneur. Tu nous as pardonné, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle, tu as fait de nous tes enfants et tu nous as introduits dans cette grande famille. Nous sommes heureux de te connaître, heureux de vivre pour toi et avec toi. Bénis ton Église aujourd'hui rassemblée. Comme un seul cœur, un seul homme, nous te louons, nous te célébrons. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre reconnaissance, notre amour, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes pour toi. Tu es le rocher de notre cœur.
Son amour, ton louange.
1, 2, 1, 2.
Amen. Combien sont contents que notre Dieu règne dans notre vie, dans notre église, dans notre... Yes. Amen, amen, il y a des gens qui le croient, c'est bon. Vous allez bien? Ouais, en ce premier jour du mois d'octobre, on sent la fraîcheur qui commence à arriver. Certains ont déjà pris quelques manteaux. Ouais. C'est bien, c'est important, faut être sage. Yes. Premièrement, je voudrais juste souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour là ou les premières fois. Je sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous, peut-être vous venez d'arriver, vous avez été invités. Vous êtes la bienvenue, on est content que vous soyez là et n'hésitez pas à venir nous voir à la fin au point accueil ou même juste devant. On veut apprendre à vous connaître et on veut juste vous dire que vous êtes les bienvenus. On est content que vous soyez là. J'ai plusieurs annonces pour la vie d'église. L'Épice, c'est une église qui vit, active. Surtout l'automne, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a forcément une annonce qui va te rejoindre, toi, dans ta situation, par rapport à tes besoins, à tes défis. Donc reste attentif, il y a plusieurs annonces et il y en a une qui va répondre à tes besoins, à tes prières. Premièrement, le conseil d'église voudrait juste vous remercier pour votre générosité. On n'en parle pas souvent, mais à chaque dimanche, vous êtes fidèles à donner généreusement, financièrement, et ça nous permet de pouvoir faire des événements pour propager l'évangile d'une manière pertinente, moderne, et ça nous permet aussi de former les disciples, les membres de l'église pour être des meilleurs disciples de Jésus. Combien sont heureux d'avoir une église avec différents événements, différentes formations, différents départements qui viennent nourrir notre foi, peu importe quel âge on a, peu importe où on en est, peu importe quelle nationalité on est aussi. Yes, combien sont heureux d'avoir ça? Ok. Bon, on va le faire pour les 20 mains qui sont levées. On va continuer pour vous. On va continuer. Donc, merci à vous. Puis, juste vous dire, il y a trois manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en allant sur le site internet, dans l'onglet « Nous soutenir ». La deuxième, c'est par chèque ou virement, point accueil. Il y a le RIB qui est là, le RIB de l'église qui est là. Donc, vous pouvez rajouter ça à votre application bancaire, pardon. Et la troisième, c'est il y a des troncs à l'arrière. Vous pouvez mettre des sous dedans. Et merci encore. Merci pour vous. Ça fait vraiment une différence et ça permet au royaume de Dieu de pouvoir prendre de l'ampleur sur cette terre et que chaque personne puisse être touchée par le message de l'évangile qui change encore des vies. Vous le croyez? Yes, on fait ça pour ça. Prochaine annonce. On veut vous donner la possibilité de pouvoir soutenir aussi des actions sociales. Il y a les aiguilles solidaires qui sont justement dans le hall. Les aiguilles solidaires, c'est des personnes qui viennent tricoter à la main, qui font des vêtements de manière artisanale et qui donnent, qui vendent ça, pardon, et qui remettent tous les sous à l'association culturelle Enjeu. Enjeu qui vient en aide aux plus démunis d'une manière à travers la nourriture, à travers les vêtements aussi. On a un vestiaire en bas, on a des colis, alimentaires. Je perds mes mots, c'est incroyable. Colis alimentaires chaque semaine. Donc au plus on achète des petits vêtements, au plus il y a des gens qui sont bénis et qui sont soutenus par justement l'association culturelle Enjeu. Donc merci à eux. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le hall. Il y a plein de belles choses. C'est vraiment un talent. Hein. C'est vraiment un talent de pouvoir coudre comme ça. Moi, je ne sais pas faire du tricot, tout ça. Là, mais merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Ça bénit des gens. Deuxièmement, moyen de soutenir nos missionnaires également. Il y a une pré-vente qui va être faite, une vente de NEM. Est-ce qu'il y en a qui aiment les NEM? Moi, j'aime trop avec la petite sauce quand c'est bien chaud. Là. Puis, en tout cas, c'est très, très bon. Mais le but, c'est pas d'acheter des NEM. Le but, c'est d'acheter des NEM pour soutenir des missionnaires, notamment au Cambodge et en Serbie. On a plusieurs membres de l'EPI qui sont partis en mission, puis on a vraiment à cœur aussi d'être là pour eux, de les soutenir, et ça passe par vous aussi, ok? Donc achetez des NEM, pas pour avoir des NEM, mais passer un beau repas, mais en même temps, propager le royaume de Dieu dans des pays aussi hors de la France. Donc allez précommander, et après, ça se fera au courant du mois d'octobre, on vous tiendra les dates pour pouvoir récupérer votre commande. Et en plus, il n'y a pas de frais de livraison comme sur Uber Eats. Amen. Ça, c'est bon. Yes, un autre moyen de soutenir aussi, c'est les ados. Les 14-17 ans ont leur week-end de rentrée du 28 au 30 octobre 2023 dans les Vosges. Et ils ont loué tout un chalet. Et c'est incroyable. Moi c'est ce genre de week-end qui m'a impacté, qui m'a amené à Jésus. Donc merci à tous ceux qui organisent ça. C'est une vraie bénédiction et vous permettez à des ados peut-être qui, parfois dans l'église, peuvent moins se retrouver, mais permettre de vivre des moments où ils peuvent rencontrer d'autres jeunes, connecter avec Jésus et apprendre encore plus à le connaître. Ça fait une réelle différence. Sauf que on a besoin de vous pour que le plus grand nombre d'ados puissent y participer. Pourquoi? Ça coûte des sous. Transport, nourriture, logement. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui nous prête tout gratuitement. On prie pour ça. Mais en attendant, il faut avoir un petit peu de finances pour pouvoir vivre ce genre de week-end. Donc il y aura une vente de fromage, mais on peut déjà précommander. Donc imaginez-vous, vous achetez les NEM, vous achetez le fromage, ce qui fait que vous permettez à des ados et des missionnaires de pouvoir annoncer l'évangile, et ensuite vous pouvez vous mettez un petit film et vous mangez bien, vous remplissez le ventre. C'est un bon plan ou pas? Yes? Moi je vais en commander. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est au point accueil pour prendre toutes les commandes de nem et de fromage. Ensuite, si tu es là pour la première fois, comme j'ai dit, bienvenue. Et peut-être tu te demandes, ok, mais c'est quoi l'EPI? C'est quoi une église protestante évangélique qui fait partie des assemblées de Dieu? Il y a beaucoup de termes, etc. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Ben viens la semaine prochaine, on aura notre deuxième édition des portes ouvertes et de l'EPI. Et comme son nom l'indique, c'est exactement comme dans un collège ou un lycée, les portes ouvertes, tu viens et tu découvres qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et tu verras qu'il y a plus de 30 services différents qui sont là pour bénir autrui, pour bénir les personnes qui viennent à l'église, mais même à l'extérieur. Donc viens la semaine prochaine, il y aura un service de louange, un message un peu plus court, et les plus de 30 départements seront répartis un petit peu partout, et tu pourras aller voir où tu veux, et tu auras une présentation en direct de quelqu'un de l'équipe qui pourra te dire qu'est-ce qui se passe dans ce département-là. Donc n'hésite pas, et peut-être même ça va te permettre de trouver ton prochain appel. Tu sais peut-être pas où servir, viens la semaine prochaine. Tu vas trouver un endroit où on a besoin de toi, où tu peux amener ta pierre à l'édifice. Donc la semaine prochaine, porte ouverte de l'EPI. Au courant du mois d'octobre, on vous l'a déjà annoncé. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi cette zone ici avec le piano? La zone du... Ok, il y en a qui se souviennent, la zone du piano à queue. Et dans quelques semaines, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des célébrations, on a vraiment à cœur de mettre un espace pour écouter et pour prier pour ceux qui le souhaitent. Et c'est justement l'espace écoute et prière. À la fin des célébrations, si vous avez envie juste de discuter avec quelqu'un quelques minutes, pas plus, et de recevoir une prière, d'être soutenu dans la prière, vous viendrez ici, il y aura une équipe de 4-5 personnes qui se tiendra et qui sera là pour vous écouter et pour prier. C'est la vision, c'est pas un endroit de thérapeute ou autre, on n'est pas là pour régler les problèmes dans votre enfance, ok? Il y a d'autres services pour ça, non, on est là pour écouter et pour prier, et ça va être mis en place dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à y aller, on est là pour soutenir ensemble. C'est pas parce qu'on a besoin d'encouragement qu'on est faible dans la foi, c'est un signe de maturité au contraire. Amen. Yes, dernière annonce, je termine avec ça. Est-ce qu'il y a des jeunes adultes, des gars dans la salle, des gars de 15, 20, 25 ans? Ok. Non, Mathieu, ça fait un petit bout que toi, tu peux plus lever la main. Mais c'est pas grave, la prochaine, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a des gars de entre 30 et 60 ans? Ok. Est-ce qu'il y a des gars de 60 ans et plus? Ok. On a un événement pour toi. On a un événement pour toi le 21 octobre, le samedi 21 octobre, il y a Ironman. C'est la conférence pour hommes. Et peu importe ton âge, ça va te rejoindre. Parce que dans cette conférence, on va voir que Dieu appelle des hommes qui doivent être utilisés par Dieu. Que Dieu appelle des hommes à être responsables, à être intègres, à être fidèles dans ses engagements. Et c'est la thématique qu'on va voir. Et que tu sois au lycée ou que tu sois en retraite, tu as besoin d'être un chrétien, tu as besoin d'être un homme engagé, fidèle et intègre. Amen? Vous le croyez? Yes, fidèle à notre épouse, fidèle avec les amis, fidèle dans notre travail, fidèle envers Dieu, tout simplement. Donc, c'est les thématiques qu'on va aborder, ça va être pas d'excuses. Donc, ça commence à 9h45, l'accueil, la louange, il y aura un message aussi, une pause repas avec des flammenkuchen, ok, et de la boisson, de l'eau avec des petits mélanges dedans qui vont faire un petit peu de bulles, ça va être sympa. Donc, venez, ça coûte 10 euros, mais c'est rien comparé à tout ce que vous allez recevoir. Ça va être incroyable. Et on aura le pasteur invité, Stéphane Hillard, qui est français, mais qui est pasteur au Québec, à Nouvelle-Vie. Moi, ça a été mon supérieur pendant des années, et c'est mon ami. Et c'est un homme incroyable qui m'a appris énormément de choses. Venez, il a une expérience de vie qui peut vraiment vous parler, qui peut vraiment vous impacter dans votre vie de couple, mais aussi dans votre vie de disciple de Jésus. Donc, venez pour s'inscrire. Le QR code, qui est ici, et qui se trouve aussi à l'accueil, les petits flyers, ou sur notre site internet où vous pourrez justement payer les 10 euros d'avance et passer une journée bénie dans le nom de Jésus. C'est bon pour vous? Yes, je vais inviter Mathieu, c'est lui qui va apporter la parole. Ce matin, on va juste prier pour lui. C'est toujours un défi hein, quand on vient, quand on prêche, on reçoit quelque chose sur notre cœur, mais on a besoin des prières de chacun pour pouvoir l'apporter de la manière dont on l'a reçu aussi. Donc on va prier que Dieu parle à travers Mathieu. Seigneur, je te prie pour Mathieu. Je te remercie pour le message à cœur. Je te remercie pour ta parole qui est vivante. Et je te remercie pour les hommes et les femmes que tu appelles, Seigneur, à propager ta parole. Et je te prie pour ce matin, pour Mathieu. Je prie de le remplir de toi. Je te prie que dans sa bouche, ce soit tes mots. Que ça puisse nous parler. Seigneur, viens nous aider à avoir un cœur ouvert pour qu'on puisse être enseignable et grandir dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Qui a apprécié le dynamisme de Jérôme ce matin? à partager la vie de l'Église, qu'on peut l'encourager. On vous remercie d'être présents, merci à vous qui êtes en ligne ce matin. Je suis très honoré de pouvoir démarrer une série qui va nous emmener jusqu'en novembre quasiment. Et cette série s'intitule « Vivre les dons du Saint-Esprit, les charismes de l'Esprit aujourd'hui », que ce soit à l'épi, que ce soit dans notre vie de tous les jours. Vous savez, l'épi est pleinement elle-même quand les adolescents, les enfants, les jeunes, les adultes vivent la vie du Saint-Esprit. Soit en communion avec le Saint-Esprit. L'épi ne peut pas vivre autre chose que de vivre avec le soutien du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen de l'église de l'épi ? Sans Saint-Esprit, on arrête, on dépose les clés, il n'y a rien à faire. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Une communion avec le Saint-Esprit, qui va se traduire par ce que la Bible appelle les dons de l'Esprit, les charismes de l'Esprit. Je ne vais pas vous en parler moi aujourd'hui, mais dans quelques temps, c'est Jérôme et d'autres encore qui vont intervenir pour parler précisément de ces charismes. Ce matin, moi, je vais démarrer avec vous sur la thématique de 4 boosters. Mais avant, je voudrais simplement vous dire comment on va vivre cette série ensemble. Ce n'est pas juste des messages qu'on va apporter. Pendant les semaines qui vont arriver, on va vivre des espaces pour expérimenter concrètement le Saint-Esprit. Il va y avoir un temps de jeûne et de prière. On va pouvoir se mettre à part pour Dieu. Vous pouvez peut-être être disponible une soirée. Eh bien, ça sera la soirée où vous pourrez vous rendre disponible pour que le Saint-Esprit puisse parler à votre cœur. On va expérimenter, on va réapprendre à s'animer de cette flamme, d'apporter tous les dons les meilleurs pour une situation donnée. On va se donner le temps, dans une soirée de louange, à être aussi à l'écoute du Saint-Esprit. On va aussi vous encourager dans votre vie quotidienne. Parce que c'est dans votre vie quotidienne aussi que le Saint-Esprit veut parler au cœur des gens. Amen. Donc ce n'est pas juste des séries de messages. C'est des messages et des espaces pour expérimenter concrètement ce que le Saint-Esprit en partage pour nous. La série va prendre ancrage, bibliquement parlant, dans les chapitres 12, 13 et 14 de l'Épître aux Corinthiens. Avec moi ce matin, ça va être le chapitre 12, mais juste avant d'aller plus loin, un petit contexte en vidéo de l'Épître aux Corinthiens.
La première lettre de Paul aux Corinthiens. Elle a été écrite à la communauté d'une église que Paul connaissait très bien. Dans l'Antiquité, Corinthe était une importante ville portuaire avec de nombreux temples dédiés aux dieux grecs et romains. C'était un centre économique majeur. C'est donc stratégiquement que Paul s'y est rendu en tant que missionnaire. Il y a passé un an et demi à faire connaissance avec les habitants et à leur parler de Jésus. Une forte communauté de personnes a cru en Jésus et ce groupe de fidèles est devenu une église. On peut le lire dans Actes chapitre 18. Après un certain temps, Paul est parti fonder des églises dans d'autres villes. Il a commencé à recevoir des nouvelles de l'église de Corinthe où les choses se passaient vraiment mal. Elle était gangrénée par toutes sortes de problèmes. Et c'est ce qui l'a conduit à écrire cette lettre. Elle se divise en 5 parties principales avec en plus les salutations finales. Ces 5 sections correspondent aux 5 problèmes principaux traités par Paul. Donc la lettre se structure comme un recueil d'essais couvrant différents sujets, avec certaines idées fondamentales qui rassemblent toutes ces parties. Voici ce qu'il relève dans chaque section. Il identifie le problème, puis il répond toujours au problème avec un extrait de l'Évangile, à savoir la bonne nouvelle de Jésus. Il montre à quel point leur vie est en déphasage avec la foi qu'ils professent. Le but de cette lettre est d'apprendre à examiner chaque domaine de leur vie au regard de l'Évangile. Voyons plus en détail comment il s'y prend. Les chapitres 1 à 4 soulèvent le problème des divisions dans l'Église. D'autres enseignants étaient venus dans cette ville depuis le départ de Paul. Un certain Apollos et ensuite Pierre. Et les gens avaient choisi leur enseignant préféré et s'étaient rassemblés comme des groupies autour de ce leader. Puis ils commençaient à dire du mal et à mépriser ceux qui préféraient un autre leader ou enseignant. Et la réponse de Paul à cette situation est plutôt cinglante. Il dit « J'espère que vous rigolez. L'Église n'est pas un concours de popularité. L'Église est une communauté de personnes dont Jésus est le centre. » Ces leaders et enseignants sont tout simplement des serviteurs de Jésus. Bien que vous ayez le droit d'avoir vos préférés, cela ne doit pas justifier les divisions et certainement pas de dire du mal les uns des autres. Le centre de l'Église est Jésus. C'est la bonne nouvelle au sujet de la personne qu'il est et de ce qu'il a fait. Dans les chapitres 5 à 7, Paul soulève les problèmes relatifs à la sexualité. Certains membres de l'Église couchaient à droite et à gauche. l'un avec la femme de son père et d'autres, tout en continuant d'adorer des dieux grecs dans les temples locaux avec les prostituées qui y travaillaient. Le pire, c'est que certains parmi les membres de l'Église trouvaient ça normal. Ils disaient « Nous sommes libres en Christ. La grâce de Dieu n'est-elle pas infinie? Tout va bien. » Mais Paul dit que rien ne va. Sur la base de l'Évangile, il montre combien ce type de raisonnement est aberrant. Il déclare « Tout d'abord, rappelez-vous que Jésus est mort pour vos péchés, ce qui inclut le désastre relationnel causé par les mauvaises habitudes sexuelles. En tant que chrétien, l'intégrité sexuelle est une conséquence majeure de notre engagement à vivre selon l'amour et la grâce de Jésus. » Paul le rappelle également que tout comme Jésus a été physiquement ressuscité d'entre les morts, nos corps seront pareillement ressuscités. Autrement dit, si votre corps est racheté par Jésus, maintenant et pour l'avenir, ce que vous faites de votre corps est important. C'est même très important. Vous n'avez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête. Paul est extrêmement clair à ce sujet. Être un disciple de Jésus implique de vivre une intégrité sexuelle sans compromis. Les chapitres 8 à 10 traitent de la nourriture, mais ce n'est pas une question de goût ni de préférence de certains aliments par rapport à d'autres. Le point de désaccord entre Corinthiens portait sur la viande sacrifiée aux dieux grecs et romains dans leurs temples locaux. Les juifs chrétiens s'opposaient aux chrétiens non-juifs sur l'attitude à adopter face à ce problème. Une fois de plus, Paul se réfère à des éléments fondamentaux de l'Évangile. Il affirme que notre allégeance va avant tout à Jésus notre Seigneur et non à n'importe quel autre Dieu. Si vous vous trouvez dans une situation où des personnes autour de vous peuvent vous voir manger de la viande sacrifiée à un autre Dieu, elles pourraient se dire « Regardez ! Alors les chrétiens adorent Jésus mais peuvent aussi adorer d'autres dieux ?» Selon Paul, vous ne devez pas manger la viande dans un tel contexte. Votre loyauté va à Jésus et vous devez aimer ces personnes plus que vous-même et ne pas les induire en erreur. Très vite, Paul nuance son propos en ces termes. Écoutez, en tant que chrétiens, nous croyons que Dieu est le créateur de toutes choses, y compris cet animal. Pour nous, les idoles des temples sont seulement des morceaux de bois et de pierre. Donc, si personne autour de vous ne risque de mal interpréter vos actions et que vous avez faim, mangez à votre aise. En tant que personne renouvelée en Christ, vous êtes libre de suivre votre conscience dans ce type de cas, sujet à débat. Donc, pourquoi est-il acceptable de manger dans une situation, mais pas dans l'autre? Le principe de base est l'amour. L'amour renoncera à son intérêt pour permettre le bien-être des autres. Et l'amour de Dieu, est au cœur de l'Évangile. C'est ce que Jésus a démontré en mourant pour nous. Selon Paul, c'est l'exemple que les chrétiens doivent donner aux autres personnes. Dans les chapitres 11 à 14, Paul passe aux problèmes liés à leur rassemblement hebdomadaire, le culte. Dans l'assemblée, certaines personnes vivaient des expériences spirituelles vraiment puissantes et elles commençaient à prier à haute voix dans des langues inconnues. D'autres commençaient à partager un enseignement ou une parole inspirée par Dieu, puis un autre se levait et l'interrompait car il avait lui aussi quelque chose à partager. Le désordre était tel qu'il détournait l'attention des gens qui souhaitaient écouter l'Évangile, en particulier les visiteurs. Donc, dans ces chapitres, Paul les amène à focaliser leurs pensées en premier lieu sur le but de ces rassemblements, afin de les aider à établir des habitudes appropriées. Il précise que dans l'Assemblée, l'Esprit de Dieu agit en chaque membre et que cela peut se faire de manière coordonnée.
On en arrive au chapitre 12, avec notre premier booster, notre premier élément clé pour vivre la dynamique des dons dans le cœur de l'Évangile, pour qu'on soit à l'image de Jésus. Et ce premier booster, c'est adopter une mentalité de grâce. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er dit ceci. En ce qui concerne les réalités spirituelles, les dons, les charismes spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est avec ces mots que Paul va commencer à répondre avec l'Évangile aux problèmes liés aux dons spirituels lors des célébrations, lors de la vie de l'Église. Et il va nous rappeler une vérité basique, une vérité que Jésus enseignait déjà à ses disciples avant lui, une vérité qu'on oublie souvent, souvent en plus quand on avance dans la foi. Cette vérité est simple. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Sans l'intervention de Jésus, les chrétiens, nous l'église de l'Épi, disciples de Jésus en 2023, nous serions encore spirituellement ignorants, aveugles, étrangers aux choses de Dieu. Nous serions sourds à l'amour de Dieu. Nous serions sourds à la mort de Jésus pour nos péchés à la croix. Nous serions sourds à ce que le Saint-Esprit fait au sein de l'église et fait dans la vie des chrétiens. Nous serions entraînés vers des idoles muettes. Nous serions aussi sourds que des idoles. Aussi muets que des idoles. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ressusciter une âme. Il n'y a que Dieu qui peut ressusciter une vie. Dieu parle. Et vivre les dons de l'Esprit, prophétiser, donner une parole de sagesse, exercer un don de guérison, c'est aussi constamment veiller à ce qu'on ait la grâce de Dieu comme baromètre. Une église en bonne santé, on le mesure à sa mentalité de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire adopter une culture, une mentalité de grâce ? C'est être animé d'un autre esprit, c'est être animé du Saint-Esprit. C'est une mentalité vis-à-vis des autres. Cette personne à ma droite, à ma gauche, elle a été sauvée par le même Seigneur. Cette personne à ma droite et à ma gauche, elle a été rajoutée au même peuple, le peuple de Dieu. Par conséquent, les dons qu'elle va exprimer, même s'ils sont différents des miens, c'est vrai, mais au travers de cette personne, je peux voir que Jésus a réellement donné sa vie à la croix. Cette personne, Jésus est mort littéralement pour elle à la croix. Et ça, ça va changer notre mentalité quand nous allons entrer en relation et quand nous allons accueillir les dons spirituels des uns et exercer nos dons spirituels vis-à-vis des autres. Sam Storm, qui est pasteur, théologien, professeur et auteur du livre « Comprendre les dons spirituels, un guide complet », dans son analyse va préciser que Dieu a gracieusement pourvu à ce que nous ayons ces manifestations de l'Esprit, ces dons de l'Esprit, pour que nous puissions être encouragés, édifiés, fortifiés, instruits, consolés mutuellement, dans le but final d'être transformés de manière croissante et de manière progressive à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une définition de la grâce de Dieu. Quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, elle est en train d'être transformée progressivement par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour vivre les dons de l'Esprit, en étant animé d'un esprit de grâce, il y a plusieurs manières tout à fait pratiques de pouvoir le vivre et de pouvoir entrer concrètement dans cette mentalité d'exprimer les dons dans un esprit de grâce. Prier. Prier pour son église locale. Quand tu pries pour ton église locale, tu te mets dans les meilleures dispositions possibles pour que le Saint-Esprit t'utilise pour édifier l'église locale. Prier particulièrement pour ceux avec qui tu as le moins de relationnel. Parce qu'en priant pour eux, tu vas te mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir, en étant en relation avec eux, libérer les dons de grâce pour cette personne à un moment donné où elle en aurait besoin. Je dirais même plus loin, prier pour celles et ceux avec qui vous avez le moins d'amitié, le moins de relationnel. Peut-être même, il y a eu quelques conflits. On sait qu'à l'église de l'Épi, il n'y a pas de conflit entre les chrétiens. Et on bénit Dieu pour ça. Nous sommes, je pense, l'église modèle dans toute l'Alsace. On entend parler de nous-mêmes jusqu'à Kinshasa. Prier. Disposer son âme, disposer son cœur. Prier pour l'Église, ça nous met dans les meilleures dispositions pour que les dons de l'Esprit, ceux dont les personnes ont besoin, ceux dont l'Église a besoin, puissent se libérer, puissent se manifester. Une autre manière de pouvoir vivre dans la grâce, dans la mentalité de la grâce, c'est de se mettre au service des autres. Quand tu sers les autres, tu es en train de dire « je te reconnais comme quelqu'un d'important, je suis ton serviteur, je suis ta servante ». Et en faisant cela, tu es en train de travailler ta mentalité à dire « c'est par la grâce de Dieu que j'ai été sauvé, c'est par la grâce de Dieu que je vais servir mon prochain ». Quand tu sers ton prochain, quand tu l'accueilles, quand tu le conseilles, quand tu vas servir un repas, quand tu vas témoigner aux autres, tu es en train de contribuer à son bien. Et en contribuant à son bien, là, tu es en train de vivre la grâce de Dieu. Tu es en train d'accorder une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Et en vivant cette faveur imméritée, le Saint-Esprit, à un moment donné ou à un autre, il agit. J'ai été énormément impacté, touché par un membre de ma famille, mais en même temps, cette personne m'a énervé. m'a bien souvent énervé. Elle pratiquait un don de l'esprit dont on parle jamais dans l'église. Le don numéro un dont on parle dans l'église et qui est le baromètre des églises locales, des chrétiens, c'est souvent le don de guérison. Alors qu'il y en a encore une dizaine d'autres. Et cette personne, elle avait un impact concret sur la vie des gens avec ce don spirituel qui est rarement enseigné dans les églises. Cette personne avait l'habitude d'annoncer Jésus en répondant aux besoins matériels des gens. Cette personne avait l'habitude de bénir et de faire des disciples en répondant aux besoins des autres, que ce soit par des dons de meubles, que ce soit en offrant du covoiturage, que ce soit en offrant sa voiture, que ce soit en préparant un repas, que ce soit en fournissant un hébergement sur du court moyen terme. Cette personne bénissait les gens avec ce don spirituel. À l'époque, ça m'a perturbé. Déjà, premièrement, je n'étais pas chrétien. Je dis, mais comment une personne peut autant se séparer de biens matériels ? Pour les autres, sachant qu'en plus, elle ne demandait rien en retour. Moi, ça rentrait pas dans ma disquette ici. Je ne comprenais pas comment c'était possible d'avoir autant de libéralité. En l'écoutant et en lisant la Bible, j'ai réalisé que sa compréhension de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, la conduisait à exercer un don spirituel que la Bible appelle le don de donner. On n'en parle pas trop celui-là, hein ? Le don de la libéralité. C'est Romains chapitre 12, verset 8, je laisserai ça à Jérôme d'en parler. Le fruit de ce don, littéralement je l'ai vu, des familles qui se sont converties à l'évangile. Par l'hospitalité, par une voiture, par des réparations. J'ai vu des gens revenir à Dieu, qui étaient déçus de Dieu, qui en voulaient à Dieu. Ils ont été guéris par cette grâce qui se manifestait par les dons de libéralité des chrétiens. Ce don m'a impacté et de temps en temps, je prie, je dis, Seigneur, c'est dur pour moi, aide-moi à ce que je puisse être aussi dans l'expression du don spirituel de la libéralité. En adoptant une mentalité de grâce, les amis, les dons de l'esprit s'exprimeront, c'est sûr. Quand vous aimez votre prochain, quand vous vous investissez en prière, en contribuant, les dons spirituels suivent. Il n'y a pas d'autre issue. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que souvent, lui, nous, on aime à dire « j'ai tel don ». Le Saint-Esprit, il a agi ce matin sans que vous vous en rendiez compte. Lui, il n'est pas là avec ses étiquettes en train de dire « je suis en train de ». Jésus était là ce matin. Et il a respecté chacune et chacun d'entre nous. Il n'est pas venu nous écraser de son autorité. Il est venu communier avec nous. Adoptons une mentalité de grâce. Le deuxième booster, le deuxième élément clé que j'aimerais vous partager pour vivre ensemble les dons spirituels cette année et dans les années qui viennent, c'est adopter une mentalité d'unité. Une mentalité d'unité envers ceux qui sont l'Église avec moi. On parle beaucoup d'unité entre les chrétiens, d'unité entre les différentes familles chrétiennes. Je vais vous parler d'une autre forme d'unité ce matin. Évidemment, quand Paul est en train de dire dans le verset 3, « Parce que vous avez été sauvés par grâce, parce que vous avez été rendus sensibles aux choses de l'Esprit, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ça, c'est un texte un peu compliqué, mais finalement extrêmement simple. Paul ici, évidemment, n'est pas en train de s'adresser à une personne athée, parce qu'on sait que peut-être une personne qui ne croit pas en Dieu pourrait dire par sarcasme ou par ironie « Ouais, Jésus est Seigneur !» Là, on sait très bien que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'animer cette personne. Ou alors, il n'est pas en train de parler d'une personne qui serait pourtant sincère sur l'instant et qui dirait « Jésus est Seigneur !» mais dont la vie ne suit pas la confession. Les fruits de vie de cette personne ne suivent pas le fait de dire et de confesser Jésus est Seigneur. Paul n'est pas en train de parler de ce public-là. Les propos de Paul n'ont rien à voir avec ça. Il ne s'adresse pas à des non-chrétiens, mais il est en train de s'adresser à des disciples de Jésus, des disciples qui sont présentement en train de se diviser. Il faut se remettre un peu dans le mood de l'époque. Laissez-moi vous ramener avec moi dans la Corinthe dont Paul est fou amoureux en tant qu'apôtre. L'église de Corinthe était composée d'un petit noyau de juifs qui se sont convertis à Christ et d'une grande majorité qui était d'origine païenne, non juive, et qui se sont aussi convertis à Christ. C'est-à-dire qu'il y avait déjà là un rassemblement de cultures différentes. Il y avait dans l'Église aussi de grandes différences sociales. Des esclaves, des hommes libres, des riches, des pauvres, des classes sociales différentes. Vous verrez ça dans l'Épître quand vous la reparcourrez, et aussi dans Actes, le chapitre 18, où on parle de l'Église de Corinthe. Alfred Kuhn, qui a été théologien, auteur, professeur strasbourgeois, va dire ceci pour résumer l'état moral et spirituel de l'Église à ce moment-là. L'état spirituel de l'Église est resté très faible. Pourtant, il manifeste plein de dons spirituels. Mais l'état est resté très faible. L'état spirituel de l'Église est resté très faible. Ils sont encore des hommes charnels, des enfants en Christ. Il y a parmi eux de la jalousie et des disputes, des coteries. J'ai découvert ce que voulait dire coterie, c'est-à-dire des clans. Il y a encore de l'orgueil, il y a encore de l'idolâtrie, il y a encore du désordre dans le déroulement du culte et la célébration de la scène. Un attrait exagéré pour les dons spectaculaires et des vues erronées sur la résurrection. C'est une église qui pourtant exerce et manifeste les dons, et pourtant ils sont divisés et spirituellement ils sont encore des enfants. Et là il y a quelque chose à comprendre pendant toute la série de notre message. C'est que Paul ne recadre pas les chrétiens de Corinthe parce qu'il y a des dons spirituels qui s'expriment. Il ne recadre pas l'Église parce qu'il y a des dons et il y a manifestation puissante de dons. Non. Paul recadre les chrétiens parce que l'état d'esprit dans lequel se vit la vie de l'Esprit n'est pas celui de l'unité. C'est pourquoi il va leur rappeler, vous êtes une Église locale. Ceux qui confessent Jésus est Seigneur dans cette église locale, avec qui vous servez, avec qui vous partagez la scène, avec qui vous témoignez de l'amour de Dieu, avec qui vous êtes en train de vivre la louange, avec qui vous êtes en train de vivre le fait de servir le roi ensemble dans la ville de Corinthe, ceux qui confessent Jésus est Seigneur avec vous, indépendamment de leur richesse, indépendamment de la pauvreté, indépendamment de leur origine ethnique, juive, grecque, alsacien, ou indépendamment de leur âge, il est en train de dire « Vous êtes une église locale. » C'est le plus important. Combien de fois dans nos milieux pentecôtistes, nous vous rappelons que nous faisons partie d'une famille pentecôtiste, on a pu accompagner des gens qui pourtant parlent en langue, mais sont divisés dans leur foyer, parlent mal, trompent. Le parler en langue ou les dons spirituels ne sont pas un baromètre de sainteté, c'est la grâce de Dieu. Combien d'églises ont vécu des réveils, et on pourrait en parler de l'histoire des réveils, avec des dons puissants, des charismes de l'esprit, des malades ont été guéris, des aveugles ont vu. En un an, l'église s'est divisée plus de fois que les doigts de ma main. C'est important de rappeler ces choses. Paul est en train de dire ici, peu importe les différences, c'est le Saint-Esprit qui conduit à la confession. Dans un pays qui se divise à cause de l'argent, à cause de la politique, à cause des leaders qu'on suit ou qu'on ne suit pas, ce serait dommage que l'Église tombe dans ce piège, elle aussi, n'est-ce pas? Parce qu'on a un message qu'aucun autre peuple, on a un message qu'aucun autre parti politique peut avoir. On a un Dieu qui a uni les noirs et les blancs, les jeunes et les gris comme moi, les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres. Et il a fait de nous un royaume. Un royaume. Très tôt dans ma vie chrétienne, j'ai eu la grâce de pouvoir être en contact avec les dons spirituels. C'était dans ma toute première église Assemblée de Dieu de l'île de la Réunion. Ma première tentative d'annoncer un don spirituel, c'était à peu près ça. Ouh. Seigneur, t'es sûr? Et si c'était moi, Seigneur? Ils vont me juger. Moi, je viens d'arriver, je suis un drogué, je viens du quartier, regarde mes baskets, Seigneur, et tu veux encore que j'apporte un don spirituel? Non, Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, mais qu'est-ce que... J'ai lu que l'évangile de Matthieu, tous ceux qui sont là, ils ont lu la Bible en entier. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Et encore, je suis sûr que le pasteur, il s'est levé à 4h du matin. Moi, je me suis levé à moins 10, j'étais en retard. Seigneur, ce n'est pas possible. Non, histoire vraie, hein, j'ai déjà vécu des circonstances comme ça. Et à un moment donné... Il y avait une culture d'église qui faisait qu'il y avait possibilité de se lancer. Et du coup, On était une plus petite communauté, donc il n'y avait pas besoin de venir au micro, parce que dans notre église, on va en parler de comment exprimer les charismes dans une taille d'église comme la nôtre. Et là, j'ai levé la voix et j'ai dit « Le Seigneur Jésus est ton Seigneur !» Amen. Je paraphrase, mais c'était quasi ça. Oh, la culpabilité que j'ai eue après. Je dis, oh, c'était nul. Punaise, Ézéchiel, il dit, oracle de l'Éternel, toi de Sion, ceci, cela, et moi, je... Et puis, j'ai eu peur que les leaders spirituels, les responsables spirituels viennent et qui commencent à me défoncer, etc. Eh bien, ils ont été remplis de bienveillance. Ils ont exercé une culture du droit à l'erreur. L'unité, mes amis, elle doit inclure le fait qu'on ne fera pas tout parfaitement. Qu'on ne sera pas tous sur la même longueur d'onde tout le temps. Les leaders sont venus me voir, m'ont encouragé, au lieu de me juger. Ils m'ont guidé, ils m'ont invité à maintenir un équilibre biblique, ils m'ont fait des feedbacks, ils m'ont fait des retours, et ça m'a donné de l'assurance. Je me suis dit, cette attitude envers moi m'a rassuré, je me suis dit, mon Église reconnaît que j'aime Jésus. Mon Église reconnaît que j'aime le Saint-Esprit. Mon Église et moi, on fait un. Ça m'a parlé. Je n'étais pas un exclu, un jeune, un vieux, un noir. Non, j'étais de l'Église. Et c'est cela, l'unité des chrétiens. Mon frère, ma sœur, qui confesse que Jésus est Seigneur comme moi et qui est le temple du Saint-Esprit comme moi. Alors à l'EPI, nous voulons adopter cette mentalité de l'unité. Une mentalité d'unité qui va encourager à une atmosphère de foi, où chacun a le droit à l'erreur lorsqu'il aspire à s'approcher de Dieu. Des gens vont s'approcher de Dieu, excusez-moi, ils ne seront pas parfaits. Mais en s'approchant de Dieu, le Dieu parfait va transformer leur vie. Le droit à l'erreur d'exercer les dons spirituels. Le droit de rechercher le discernement ensemble et de grandir ensemble. Le droit à être enseignable. Ça m'est arrivé parfois de prêcher ici, et puis Michel est venu me voir, il m'a dit tel point, tel point. Du coup, j'ai fait un putsch et aujourd'hui, c'est moi le pasteur principal. Tu couperas ça, s'il te plaît. Une mentalité d'unité qui encourage ceux qui sont déjà matures à faire preuve encore plus d'humilité. Une mentalité d'unité qui incite ceux qui sont encore en devenir à se lancer sans crainte du jugement. On en aura besoin, vous allez en avoir besoin. Vous lancez. Quand on aura les sessions de jeûne et de prière, quand on aura des temps de célébration, savoir discerner ensemble comment ça se passe. Je me souviens, dans cette fameuse première église, on aimait les dons spirituels et à chaque dimanche, il pouvait y avoir l'expression des dons spirituels. Et ça venait pas toujours au même moment. L'église était par exemple en louange et on priait, et puis après il y avait des chants. Et tout d'un coup, l'église petit à petit, elle se taisait. C'est comme s'il y avait un discernement collectif, une harmonie spirituelle. Et ça commençait à moi, c'était pédagogique pour moi. Je dis, ah, il se passe quelque chose. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en harmonie, l'église se taisait. Et là, quelqu'un apportait un don spirituel. Puis les gens réfléchissaient, les gens discernaient, tout ça. Et puis tout d'un coup, ça repartait dans la louange. Ou alors, il y avait un silence. Et il y avait un autre don spirituel. Et ce qui était fort, ça m'a touché. Il y avait une vraie harmonie. L'église avait appris à avoir un discernement collectif. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vivre avec vous aussi. Mais ça demande un sacrifice en termes d'unité, d'être à l'écoute des uns et des autres. Un autre booster, un autre élément clé pour vivre les dons spirituels aujourd'hui, c'est adopter une mentalité d'ouverture envers ceux qui sont avec moi à l'Église aujourd'hui, une ouverture à ceux qui exercent des dons qui sont différents des miens. Le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Notre traduction dira « pour le bien commun ». Ici, ce qui est intéressant quand on étudie le texte, très rapidement, parce qu'il y aurait tellement à dire sur Corinthiens, mais c'est que Paul fait une espèce de règle de trois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a trois catégories. Il y a les dons, les charismes, les dons spirituels. Il y a une autre catégorie, c'est le service, c'est les ministères, la fonction, les fonctions, les rôles. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est les actes, les activités, les opérations, les tâches. Et puis en même temps, il va mettre en place, en fait, il va présenter trois personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il va présenter l'Esprit, le Saint-Esprit comme personne, le Seigneur Jésus comme personne et Dieu comme personne. Je le relis avec vous maintenant que vous avez cette grille de lecture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu, qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit donné pour le bien de tous, pour l'édification de tous. En fait, Paul, il ne fait que rappeler l'évangile. Paul nous rappelle à nous et aux Corinthiens que leur ADN spirituel, leur identité spirituelle, elle leur vient d'un Dieu qui est trinitaire. Un Dieu unique qui se révèle en trois personnes. En fait, il est en train de dire, hey, n'oubliez jamais que Dieu est diversité. Ton Dieu est diversité. Ton église locale doit être à l'image de ton Dieu qui est diversité. Donc ton église locale doit être diversité. Il y a différents dons spirituels à exercer, différentes responsabilités à assumer et différentes activités à accomplir. Toi qui exerces régulièrement le don de la parole de connaissance, adopte une mentalité d'ouverture envers ton frère qui lui exerce par exemple un don de libéralité et qui investit de ses biens, comme je l'ai dit, dans le développement de la formation des pasteurs, des disciples, de l'implantation d'églises. Toi qui exerces les dons de guérir les malades, manifeste une mentalité d'ouverture envers ta sœur qui exerce plus régulièrement le don de présider, de conduire des équipes, de conduire des disciples à la sainteté, de conduire à découvrir les dons et les talents des uns et les autres. Paul est en train de plaider la cause de la diversité. Et pour qu'on accueille cette diversité ici à l'Épi, il faut qu'on ait une mentalité d'ouverture. Laissez-moi vous rappeler rapidement. Et je peux un peu me le permettre parce que je suis issu d'un mariage entre une maman réunionnaise, une Catherine de feu, et un papa alsacien, un Alsacien de feu. Laissez-moi 30 secondes vous rappeler les enjeux en France aujourd'hui du vivre ensemble. Les enjeux des divisions entre les ethnies, entre les peuples, entre les cultures, dans la manière de vivre, dans la manière d'éduquer, dans la manière de transmettre les valeurs, dans la manière de vivre des valeurs. C'est un grand défi dans notre pays aujourd'hui et nous avons la réponse devant les yeux. Notre Dieu est diversité, nous devons accueillir cette diversité. Là, j'avais marqué que l'Église allait dire un grand Amen, mais j'arrive plus à retrouver mes notes. Attendez, je cherche. Hein. Quel message pour la ville de Strasbourg ce matin ! Vous êtes des lettres vivantes ce matin ! On va vivre la scène ensemble où nous allons prendre ensemble la scène alors que nous venons de différents milieux. Nous sommes de différentes arrière-plans sociaux ou autres. Et nous allons ce matin envoyer un message fort dans le royaume de Dieu, dans la ville de Strasbourg, de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Quel message pour ceux qui subissent du racisme en ce moment. Vous ne croyez pas que l'Église peut guérir leur cœur ? Hier à Corinthe, aujourd'hui à Strasbourg, alors que les uns mettent des emphases sur tel don, d'autres sur tel service, sur telle activité, moi je fais, toi de toute façon tu t'assois toujours le dimanche, tu ne fais jamais rien, alors que la personne elle a passé une heure en prière pour intercéder pour chaque âme qui était dans la pièce, hein. Mais elle fait rien. Paul va détruire cette mentalité humaine, cette mentalité ancienne, cette mentalité païenne, en une seule analogie, l'analogie du corps. Il n'y a plus ni juif, ni grec, mais un seul peuple. Alors ça peut paraître comme ça utopique et tout, mais c'est ce qu'on est en train de vivre quand même ce matin. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train de vivre ce que Jésus a décidé qu'on allait vivre ce matin. D'être réunis ensemble dans un même lieu. Il faut de l'ouverture. Il faut de l'ouverture. L'image du corps, c'est le quatrième et le dernier booster. Adopter une mentalité d'interdépendance et de coopération. 1 Corinthiens chapitre 12 et on reprend au verset 12. Et là on va faire une longue lecture parce que je pense que Paul de toute façon lui dira mieux que moi ce qu'il a à dire. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas là une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et là, il y a toute cette notion d'interdépendance entre nous ce matin, dans nos services, en tant qu'église locale. Et Paul va aller encore plus loin que juste dire « On est en interdépendance, on a besoin les uns des autres ». On a besoin de ceux qui exercent des dons de foi, on a besoin de ceux qui exercent les dons de sagesse, on a besoin de ceux qui exercent le don de présider. On est interdépendant. Il va plus loin, il va dire non, c'est pas que vous êtes juste interdépendants, vous devez coopérer les uns avec les autres. Et il va dire ceci au verset 22. Bien plus, répétez avec moi, bien plus, c'est-à-dire c'est encore plus important que tout ce que je viens de vous dire. Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est-à-dire, nous les entourons de grâce, d'unité, d'ouverture et d'interdépendance. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Je vais relire ce verset-là. Dieu a disposé le corps de manière à disposer le corps. Il agence les choses de manière à ce que on donne plus d'honneur à ceux qui en manquaient. On s'organise. On se bouge pour faire en sorte que ceux qui ont besoin d'un peu plus d'honneur, plus d'espace, plus de grâce, puissent avoir un lieu où vivre leur foi. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. En filigrane, on ressent la grâce, on ressent l'unité, on ressent l'ouverture, l'appel à l'ouverture, l'appel à l'interdépendance. Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si un membre souffre d'une maladie, que l'Église a jeûné, prier, à soupirer après l'exercice des dons spirituels. À un moment donné, dans la coopération, il va falloir un moment se positionner et commencer aussi peut-être à souffrir avec celui qui souffre. On n'aime pas voir la souffrance. Mais du coup, ce qu'on a fait dans l'Église moderne, c'est qu'on a pris tous les dons spirituels qui peuvent nous évacuer la souffrance et on les a mis comme numéro un. Et on a fait ça. Je ne veux plus voir la souffrance, donc il y a des dons de guérison, et si les dons de guérison ne marchent pas, c'est que tu as un problème. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce texte, là, il y a un membre qui souffre et moi je souffre avec le bébé. Là, je ne sais pas où il est, mais donnez-lui une sucette, faites quelque chose s'il vous plaît. Bénissez cet enfant. Ce texte est tellement explicite qu'il n'a même plus besoin d'être argumenté. Quand je lis cette analogie du corps, cela m'emmène à comprendre que plus la mentalité du corps va grandir, ce corps uni va grandir dans ma vie et dans la vie de l'Église de l'Épi, dans la grâce, dans l'ouverture, dans l'interdépendance, plus se renforcera alors notre Église locale et plus on s'épanouira dans la vie charismatique de notre Église locale. Nous vivrons des dons spirituels adéquats au bon moment. Nous vivrons des percées spirituelles adéquats au bon moment. Nous vivrons des dons de grâce adéquats et au bon moment. Je voudrais vous inviter à vivre 1 Corinthiens 12 de manière très concrète, en développant cette mentalité de grâce, d'unité, d'interdépendance et de coopération, d'ouverture. Je voudrais qu'on puisse le vivre au travers de la scène ce matin. Pourquoi ? Parce que nous allons prendre ce matin deux éléments, deux symboles qui sont les plus parlants quand il s'agit du corps. Jésus a dit ceci, prenez, c'est mon corps. Et prenez aussi ceci, c'est mon sang. Et en fait, en prenant ces éléments ce matin, nous allons nous mettre dans une posture, nous allons nous mettre dans une position spirituelle, nous allons dire, là, nous avons toute l'expression de la grâce de Dieu manifestée envers Jésus, envers les frères et les sœurs autour de nous par Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand nous allons prendre ces éléments, nous allons nous souvenir de la mort de Jésus, une faveur imméritée, une faveur de grâce. Mais en fait, nous n'allons pas nous en souvenir que pour nous, en fait. On va s'en souvenir pour la personne qui est en face, la personne qui est derrière, la personne qui est à droite et la personne qui est à gauche. Et nous allons avoir une mentalité de grâce, de dire, mais ces éléments, en fait, c'est aussi pour toi. C'est pourquoi ce matin, on va commencer à distribuer les éléments et on va s'attendre. Vous n'allez pas les prendre pour vous. Vous allez les prendre avec les autres. Nous allons nous attendre les uns les autres. Nous allons prier ensuite les uns pour les autres. Avant de prendre et juste dire, oui, on est une famille, hein, oui. Ouais. Eh ben, on va juste simplement dire, excuse-moi, je ne connais pas ton prénom. Est-ce que je peux prier pour toi dans le nom de Jésus ? Pas besoin de poser les mains, quoi, juste de dire, Seigneur Jésus, je bénis cette personne. Je prie pour elle. Je te demande ta grâce. Puis l'autre personne va prier aussi pour vous. Et là, il va y avoir une mentalité de grâce qui va prendre place. Une mentalité d'unité, une mentalité d'interdépendance. Nous allons prier les uns pour les autres et on va s'ouvrir à l'autre. C'est un petit pas, mais vous allez voir que ça va avoir de grandes percées pour la vie spirituelle qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Parce que le but premier de tous les dons, dira Sam Storm, c'est de bâtir le corps de Christ. Bâtir le corps de Christ, bâtir la communauté des croyants. Je vais inviter l'équipe à venir maintenant. Et on va ensemble prendre un temps de prière, un temps de chant. Et pendant ce temps de chant, il va y avoir une distribution. Et je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas prendre tout de suite les éléments. J'ai déjà vécu dans d'autres communautés, je l'avais dit trois fois, mais les gens ont oublié parce que les gens viennent pour prendre leurs éléments tout de suite. On ne va pas prendre nos éléments, nous allons prendre le corps de Christ. Alors on va s'attendre dans la louange avec un chant de bénédiction. Et je vais inviter chacune et chacun d'entre vous à vous lever pour prendre ces éléments ensemble. Vous qui êtes disciples de Jésus, qui avez fait ce choix de le suivre, de vous faire baptiser, de vivre pour lui. Et j'invite à se lever non pas des gens parfaits, mais des gens qui confessent le nom par la puissance du Saint-Esprit d'un Dieu qui est parfait. Et on va vivre une scène, mes amis, où le Saint-Esprit œuvra, touche. Et il se peut même que sans imposition des mains ce matin, le Saint-Esprit touche le corps de quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un, touche le couple de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un. Et ma plus grande prière, c'est que le Saint-Esprit touche le cœur de l'Église de l'Épi. Pour qu'on puisse vivre ce que le Seigneur il a dit. Soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un. Alors on a chanté la bénédiction. Et cette fois-ci, en fait, on va le chanter, on va regarder nos frères et nos sœurs, et on va les bénir aussi comme ça. Je sais que ça fait bizarre, mais n'hésitez pas à regarder vos frères et vos sœurs et à les bénir, hein. Amen.
Nous sommes en train de dire qu'il en soit ainsi dans la vie des gens. Bénissez-vous, bénissez-vous. Regardez vos frères et vos sœurs, dites-leur. Quelle déclaration! On a chanté en priant, on a prié en chantant, maintenant on va prier les uns pour les autres, on va se bénir. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un? Même quelqu'un qui n'a pas forcément ces éléments, c'est la bonne occasion de pouvoir la bénir ce matin. Et juste de dire, je prie que le Seigneur te bénisse. Prions les uns pour les autres maintenant. Dans le respect, même si quelqu'un n'a pas forcément un sourire, tu le regardes et tu dis, je te bénis dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. On est dans une église, on a le droit de bénir les gens. Hein. Dieu te bénit, que sa faveur soit sur toi. Seigneur, on se bénit mutuellement dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de la bénédiction. Que ta faveur soit sur nos frères, nos sœurs, là dans les rangs actuellement. Tu vois quelqu'un qui est fatigué, qui est chargé, quelqu'un qui est venu avec tristesse. Nous te prions que la tristesse s'en aille pour que la joie de l'Éternel soit sa force ce matin. Nous croyons, Seigneur, que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que Strasbourg, que nos voisins, que des personnes nouvelles ici découvriront que nous sommes des disciples de Jésus, que Jésus est vivant, que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Roi ressuscité. Saint-Esprit, Esprit de résurrection, ressuscite. Ressuscite un foyer ce matin. Ressuscite une famille ce matin. Te prions, Seigneur, pour guérir encore à l'épice qui est fragile, ce qui est comme une blessure. Guéris ton Église. Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous parfois quand nous perdons de vue l'unité. Pardonne-nous quand nous perdons de vue la grâce. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons été dans le rejet. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous confessons le nom de Jésus, le nom qui unit les nations, le nom qui réunit les familles, le nom qui réunit les habitants de Strasbourg. Seigneur, nous le croyons, nous le confessons, nous prions pour cela. Nous voulons être une église de l'Esprit, une église de l'Esprit qui annonce la grâce, qui annonce l'unité, qui annonce que nous voulons chercher, accueillir, vivre la foi avec tous. Nous ne regardons pas à l'argent, nous ne regardons pas à la couleur de la peau, nous regardons à ce que Jésus est en train de faire dans la vie de cette personne. Seigneur, nous bénissons ce matin, en ton nom, par ta grâce, par ta grâce. Seigneur, particulièrement, je voudrais inclure dans ma prière des personnes qui pourraient se sentir, et c'est normal, aussi gênées d'une vie communautaire comme cela. Et je crois que il y a les paroles des hommes et il y a la parole de Dieu. Je crois qu'il y a la présence des êtres humains et il y a la présence de Dieu. Et ma prière, c'est que ta présence maintenant rayonne et vibre dans chacune des vies des personnes qui sont là ce matin. Ce que nous avons besoin, c'est la réalité. Nous avons besoin d'une douche de ta présence en réalité. Nous avons besoin, Seigneur, de nous rappeler que tu es vivant. Pas des émotions, pas des picotements, juste une conviction intérieure que Jésus est vivant. Qu'il est fidèle. Un grand merci à vous qui avez distribué ce matin ces éléments. Une belle diversité de personnes. Alors dans le nom du Seigneur maintenant, on va proclamer l'unité et la grâce. Et on va regarder nos frères et nos sœurs et on va prendre maintenant le pain. Et se regarder et dire nous sommes le corps de Christ. Et pour ce deuxième élément, on va regarder les frères et les sœurs en dire « Le sang de Jésus, il a coulé pour toi. » J'aimerais tellement avoir un micro dans le ciel, là. Et d'entendre les anges dire « Mais ouais !» L'Église, elle est unie, elle se donne les moyens. La Bible dit ceci, il y a de la joie, et on le prend souvent pour les baptêmes, et je pense que c'est aussi valable quand il y a des chrétiens qui se sont détournés. Et la Bible dit, il y a de joie dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour d'autres qui n'ont pas besoin de repentance. Peut-être qu'on avait perdu de vue cette vision de l'unité de l'Église locale. Certains diront, c'est un petit pas pour l'église de l'Épi, mais moi je crois que dans le ciel, Dieu est en train de dire, vous avez fait un pas de géant, l'église de l'Épi. Être un comme Dieu est un. Alors on va juste le reprendre une dernière fois en a cappella. Dieu te bénit. Et on finira ensemble cette célébration.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
Et ensemble, on chante Amen.
Seigneur, on te remercie pour ta présence dans ce lieu. On te remercie pour les dons spirituels que tu vas continuer de déverser dans la vie des uns et des autres pour l'édification de l'Église. On prie pour ces prochaines semaines qui sont importantes dans la vie, qui sont importantes dans la vie de notre Église locale. On te prie, Seigneur, pour les portes ouvertes. Te prions pour des personnes qui vont découvrir l'Église, qui vont produire chez eux la réalisation que Jésus est vivant. Te prions pour les temps de jeûne et de prière qui vont arriver, les temps de soirée de louange. Te prions pour nos enfants, nos ados, pour tous les espaces qui sont dédiés pour qu'ils rencontrent Jésus à chaque semaine. Te prions pour des rendez-vous divins à chaque semaine, à chaque jour. Accompagne-nous aussi, Seigneur, quand on est dans le creux de la vague. Certains le sont. Et nous voulons encore plus penser à eux dans la prière. Te prier de les renouveler, de les fortifier, de les bénir. De nous aider aussi à être une réponse en partie à ta bénédiction pour eux. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments. À toi toute la gloire. Amen. 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 On peut applaudir le roi.